grotte de Choranche en compagnie de notre guide Pierre-Yves qui nous fait visiter et découvrir cette exceptionnelle grotte dans les gorges de la Bourne. Quand on parle de cette grotte, c'est aussi bien l'eau qui a fait son chemin depuis des milliers d'années.
Alors effectivement, sans l'eau, on n'aurait pas de grotte ici à Choranche. En fait, au-dessus de nos têtes, on a de la roche calcaire. Et lorsque l'eau de pluie tombe au-dessus de la grotte, sur le plateau des Coulmes, elle va se charger en gaz carbonique quand elle traverse la couche de végétation et d'humus. Et quand on met du gaz carbonique avec de l'eau, ça rend l'eau un tout petit peu acide. Ce qui lui permet ensuite, quand elle rentre dans les fissures de la roche, de dissoudre cette roche et d'agrandir son chemin petit à petit. Donc la salle d'entrée dans laquelle on est, elle a été formée uniquement grâce à la dissolution du calcaire par l'eau.
Allez, je vais te poser une petite colle, Pierre-Yves. Comment ça se fait qu'on trouve des concrétions là au plafond, certaines qui sont massives, assez imposantes, et puis d'autres extrêmement fines?
Alors, il n'y a pas de colle pour les guides. Hein. On a toutes les réponses dans la grotte. Non, pour être plus sérieux, en fait, tout dépend de la vitesse à laquelle l'eau arrive au niveau du plafond. Alors, nos fistuleuses, par exemple, celles qui sont très fines en forme de paille, c'est simplement la goutte d'eau qui va rester collée parfois un mois au plafond avant de tomber au niveau du sol. Et donc là, on va avoir des petits anneaux de roche qui vont se déposer autour des gouttes d'eau, forcément goutte après goutte. Les anneaux se mettant les uns en dessous des autres, on a des formes de tubes qui se créent. Par contre, dès qu'on a une forme un peu plus massive, on peut imaginer qu'à un moment donné, dans l'histoire de la stalactite, l'eau a coulé plus vite, avec plus de débit. Et donc à ce moment-là, on n'a plus des petits anneaux de roche qui se forment, on va plutôt parler de petits tas et qui vont faire s'élargir la stalactite petit à petit.
Donc c'est un peu la fissure qui conditionne tout ça.
Effectivement, la fissure et l'inclinaison du plafond, hein, rappelons-le aussi, ce qui peut nous créer plein de formes différentes.
Donc c'est un plafond, on pourrait le dire, exceptionnel vu le nombre de fistuleuses, puisque dans toutes les autres grottes, il y a aussi des fissures.
Alors effectivement, nous on a la chance d'avoir un plafond qui est rempli de toutes petites fissures, ce qui nous amène très peu d'eau. Et l'autre chance qu'on a, c'est que nos plafonds sont plutôt plats, horizontaux. Donc on va avoir les gouttes d'eau qui vont vraiment rester collées au plafond. Et il faut rajouter à ça, l'eau doit arriver ici toute l'année. Il ne doit pas y avoir de moment où l'eau s'arrête de couler. Donc c'est cette chance aussi qu'on a au niveau de nos plafonds. Les gouttes d'eau sont là à tout moment de l'année.
Il n'y a jamais de, on peut dire, d'étiage de saison sèche dans la grotte?
Alors forcément, pendant les périodes très chaudes, les périodes de sécheresse, ou lorsqu'il fait très froid en hiver et que la neige reste en surface, eh bien, on va avoir très peu d'eau à l'intérieur de la grotte, mais on n'a jamais connu de grotte à sec. En fait, on a un grand réseau de galeries avec des immenses réserves d'eau au-dessus de nos têtes dans la falaise. Et toute cette eau se vide petit à petit, ici, à l'intérieur de la grotte, à l'endroit où les gens visitent.
Et là, quand on voit un petit peu ce flux qui passe, mais il en a fait des kilomètres avant d'arriver ici.
Alors effectivement, on a pas mal de galeries. Les visiteurs visitent 300 mètres de galeries sur les 34 km de galeries qui ont été explorées par les spéléologues. Donc on a vraiment un très grand réseau, ce qui correspond à peu près à 10 km² à la surface sur le plateau des Coulmes.
On peut dire un château d'eau, quelque part une grosse inertie avant d'arriver là.
Effectivement, une grosse inertie, beaucoup d'eau retenue dans cette montagne. D'ailleurs, on le voit hein, autour de nous, on a des lacs qui font parfois plus de 3 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment une grande réserve d'eau.
Au niveau des couleurs, il y a aussi un aspect de blancheur qui est assez soutenu.
Alors effectivement, au-delà du lac émeraude, les stalactites sont très blanches, très cristallines. Et ça, c'est simplement parce qu'ici, on a très peu d'impuretés dans la montagne au-dessus de nos têtes. On n'a pas de métaux, par exemple, qui pourraient s'oxyder. On ne va pas non plus avoir de choses trop colorées. Les seules petites taches de couleur qu'on pourrait avoir, c'est soit de l'argile ou de la terre qui proviennent de l'extérieur, soit on peut avoir des cendres du charbon de bois. Parce qu'avant, il y avait des charbonnières, hein, on faisait du charbonnage sur le plateau des Coulmes. Et toutes ces particules ont fini par traverser la montagne pour arriver jusqu'à l'endroit où on est.
L'activité humaine au-dessus, sur Presles, a vraiment imprimé la grotte de Choranche.
Effectivement, l'activité humaine. Et il faut se dire que dans les stalagmites, bien souvent, les scientifiques vont aller rechercher des traces du passé, vu que toutes ces petites particules vont rester bloqués dans la calcite, dans les stalagmites.
Merci Pierre-Yves. Poursuivons notre visite. Là, on s'achemine vers des curiosités qui sont aussi propres à la grotte de Choranche. On parle de dragons, on va voir ça attentivement dans quelques instants. Merci.